VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, et c'est donc parti pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Heureux de vous retrouver, Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce mardi 24 février 2015. Les points forts ce matin, en Mauritanie, trois anti-esclavagistes qui ont été condamnés à 2 ans de prison annoncent une grève de la faim.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo répond aux accusations d'atteinte à la sûreté de l'État qui pèsent sur elle.
Maître Dagué Rodrigue.
Nous avons démontré par A plus B à la Cour que le mandat de Mme Gbagbo n'était pas fini en 2005. Pour preuve, il y a des lois qui ont été votées jusqu'à 2010. Le nouveau gouvernement de M. Ouattara s'est adossé sur une loi votée en 2007.
Au Kenya, la justice rejette plusieurs articles d'une loi sécuritaire controversée.
À l'étranger, l'autorité palestinienne et l'OLP condamnées à New York pour des attentats en Israël.
Et dans la partie magazine, gros plan sur les efforts en RDC pour encourager les creuseurs dans le domaine minier à épargner.
Même je peux gagner même 5 dollars, même 10 dollars, même 15 dollars.
Aloïse Teguera est directeur de la recherche à Apollo Institute.
Une idée que nous avons, comment aider les creuseurs artisanaux à bénéficier de leur travail comme il faut.
À venir également, vos rendez-vous habituels, la page de l'économie et le billet sportif.
En Mauritanie, trois militants anti-esclavagistes ont donc entamé depuis hier une grève de la faim illimitée après leur condamnation à 2 ans de prison ferme. Ils sont incarcérés à Alleg, dans le centre du pays, Bagassikoura.
Biram Ouldda Ould Abeid, président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste et candidat à l'élection présidentielle de juin 2014, Brahim Ould Bilal Ramdan et Djibi Sow ont déclenché une grève de la faim à partir de ce lundi dans la sinistre prison d'Alleg. Selon l'AFP, ils entendent ainsi protester contre les mauvais traitements, les abus qu'ils subissent depuis leur arrivée à la prison et les conditions sordides dans lesquelles ils se trouvent. Dans un communiqué, ils expliquent que ces conditions ne sont pas en conformité avec leur statut de militant chevronné des droits de l'homme, condamné le 15 janvier par la Cour correctionnelle de Rosso dans le sud du pays, notamment pour appartenance à une organisation non reconnue. Les trois hommes qui ont fait appel ont été transférés peu après à Alleg. Plus à l'est, l'esclavage a officiellement été aboli en 1981 dans le pays. Mais selon Amnesty International, en Mauritanie, les descendants d'esclaves qui travaillent la terre sans aucun droit sont obligés de donner une part de leur récolte à leurs maîtres traditionnels.
En Guinée, un imam qui avait conduit des rites funéraires pour un homme suspecté d'être mort d'Ebola a été inculpé de coups et blessures sur des agents en campagne contre le virus. Son procès s'ouvre ce mardi. Claire Morin-Gébourg.
L'imam El-Hadj Mohamed Souma de la mosquée de Yimbaya, une banlieue sud de Conakry, avait été inculpé suite à une plainte d'un membre d'une équipe de sensibilisation contre le virus Ebola. Selon l'AFP, le plaignant avait été blessé le 9 février lorsqu'une mission a été dépêchée dans le quartier de Yimbaya pour pulvériser une concession et interroger l'imam qui avait conduit des rites funéraires pour un fidèle suspecté d'être mort d'Ebola. L'interpellation de l'imam le jour même avait dégénéré. Les manifestants avaient érigé des barricades et brûlé des pneus avant d'affronter à coups de cailloux et de bâtons les forces de l'ordre qui ont eu recours au gaz lacrymogène et à des matraques faisant une douzaine de blessés. Les rites mortuaires impliquant un contact avec le corps continue à être un des principaux facteurs de propagation du virus Ebola, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Au Kenya, la Cour constitutionnelle a rejeté une bonne portion de la loi antiterroriste. La Cour s'est débarrassée des restrictions sur les médias, mais a conservé une disposition permettant aux autorités de détenir des personnes soupçonnées de terrorisme pour près d'un an, sans les inculper. Jean-Roger Bion.
La Cour constitutionnelle kenyane a estimé que les restrictions de l'État sur les médias concernant les opérations de sécurité sont des entraves à la liberté d'expression et violent la constitution du pays. La loi aurait permis de sanctionner les médias accusés de diffusion de nouvelles susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public. La Cour a également annulé le plafond sur le nombre de réfugiés admis au Kenya. Elle a cependant concédé que les autorités pourraient détenir un terroriste présumé pendant 360 jours au lieu de 90 sans les juger. Le gouvernement a dit qu'il pourrait faire appel de cette décision qui dénature la loi approuvée lors d'une session parlementaire trouble en décembre dernier. Certains députés qui s'opposaient à la législation au motif qu'elle violerait les droits civils des Kenyans avaient jeté des livres et fait beaucoup de bruit pour empêcher le vote de l'enceinte du Parlement. Le président Kenya Uhuru Kenyatta est sous pression pour adopter des mesures de sécurité plus sévères après plusieurs attaques, dont celle dans un centre commercial de Nairobi en 2013 qui avait fait 67 morts. La plupart des attaques ont été revendiquées par les Chebabs somaliens.
Le Parlement libyen, reconnu par la communauté internationale, a décidé hier de suspendre sa participation au dialogue parrainé par l'ONU pour tenter de trouver une solution au conflit en Libye. D'après l'AFP, cette décision intervient après les attentats terroristes de vendredi à Al-Koba qui ont fait plus de 40 morts et qui ont été revendiqués par la branche libyenne du groupe État islamique.
Critique de Washington après la condamnation en Égypte de Ahala Abdel Fattah, figure de la révolte anti-Moubarak de 2011. Les États-Unis pensent que la stabilité à long terme d'un pays est consolidée par la protection du droit de ses citoyens à exprimer pacifiquement une forme de dissidence, a déclaré hier la porte-parole du Département d'État, citée par l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Programme nucléaire iranien, Washington et Téhéran ont fait état hier de progrès dans leur pourparlers à Genève, tout en avouant qu'un accord international était encore loin d'être conclu avant la date butoir du 31 mars.
En Ukraine, les séparatistes pro-russes ont célébré hier dans leur fief de Donetsk leur victoire à Debaltseve face aux forces ukrainiennes, ce qui coïncidait avec le jour du défenseur de la patrie dont l'origine remonte à l'Union soviétique. Des hommages ont été rendus aux combattants tombés au front. Célébration au moment où Kiev a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à déployer des casques bleus dans l'est du pays.
Un jury populaire de l'État de New York a condamné hier l'autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine à verser 218 millions de dollars d'indemnités aux familles de victimes d'attentats commis en Israël entre 2002 et 2004. La justice américaine avait été saisie par les familles de 11 victimes israélo-américaines. D'après Reuters, l'autorité palestinienne et l'OLP ont fait appel du verdict.
Le président Barack Obama a mis en garde contre l'impact direct qu'aurait une fermeture partielle du ministère de la Sécurité intérieure, non seulement sur l'économie américaine, mais aussi sur la sécurité nationale. Lionel Gaïma.
S'adressant au gouverneur d'État réuni à la Maison-Blanche, M. Obama a souligné qu'un tel shutdown ou fermeture partielle signifierait que plus de 100 000 gardes frontières, inspecteurs aux ports et agents sécuritaires aux aéroports ne seraient pas payés. La plupart des 230 000 employés du ministère de la Sécurité intérieure devraient continuer en effet de travailler sans salaire. Ce ministère, qui a un budget de 40 milliards de dollars, doit commencer à manquer de fonds cette semaine à cause d'indifférents politiques sur l'immigration entre le président Obama et les républicains au Congrès. C'est en novembre que Barack Obama a pris un décret pour approuver des grands changements dans la politique d'immigration. Pour les républicains, il a outrepassé ses pouvoirs et il bloque le financement du ministère, exigeant des démocrates qu'il déclare nul et non avenu ce décret présidentiel.
Au Canada, un mystérieux tunnel a été découvert à Toronto sur un terrain boisé situé autour du Rexall Center où doivent se tenir les Jeux panaméricains du 10 au 26 juillet prochain, rapporte l'AFP. Les autorités ont exclu la piste d'un laboratoire de drogue clandestin. La découverte intervient après les menaces du groupe Al-Shabaab, la branche d'Al-Qaïda en Somalie, contre deux centres commerciaux en Amérique du Nord, le West Edmonton Mall au Canada et le Mall of America dans le Minnesota aux États-Unis. Leurs responsables ont annoncé hier de nouvelles mesures de sécurité. Et puis, deux aspirants terroristes californiens ont été condamnés hier à une peine d'emprisonnement de 25 ans pour avoir comploté l'appui à des terroristes et l'assassinat d'Américains à l'étranger. Soyel Omar Kabir et Ralph DeLeon étaient jugés pour leur participation à un complot visant à aller s'entraîner avec les talibans et Al-Qaïda. Comme chaque matin, l'heure de votre condensé de l'actualité économique en Afrique et ailleurs dans le monde, la Minute Éco que nous présente Bagassi Koura.
En République démocratique du Congo, au Katanga, la population accuse une entreprise minière de polluer deux rivières à Likasi. C'est une information de Radio Okapi. Les habitants du quartier Kakontwe accusent l'entreprise minière chinoise Keipen Mining de polluer la rivière Moura et la source Kouantété. Pour manifester leur colère, ils sont descendu ce lundi dans la rue. Pour la population de ce quartier, cette entreprise chinoise renverserait des produits toxiques dans ses rivières où ils s'approvisionnent en eau courante pour la boisson et les travaux ménagers. La Zambie interviendra pour préserver près de 4000 emplois à la mine de cuivre de Lumwana dans le nord-ouest du pays que le groupe canadien Barrick Gold veut mettre à l'arrêt en représailles à une hausse des impôts. C'est ce qu'a annoncé la présidence zambienne. Le gouvernement a relevé au 1er janvier de 6 à 20% le montant des taxes sur les mines et depuis, le groupe basé à Toronto a annoncé qu'il commencerait à renvoyer les mineurs chez eux à partir du 1er mars. Le constructeur automobile Mercedes-Benz va rappeler près de 150 000 véhicules ici aux États-Unis. Selon l'AFP, citant l'Agence de la sécurité routière américaine, c'est en raison des risques d'incendie. Un rappel similaire concernant les mêmes modèles a été annoncé la semaine dernière en Chine pour 127 000 véhicules.
C'était la Minute Éco. Merci Bagassi. Et maintenant, la tranche sportive avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
En Europe, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Le Borussia Dortmund reste sur 3 victoires et se présente dans les meilleures conditions possibles contre la Juventus de Turin. Ce sera tout à l'heure en Ligue des Champions. C'est ce qu'a expliqué hier son entraîneur Jürgen Klopp en conférence de presse. On suivra évidemment avec attention Pierre-Emerick Aubameyang. À la pointe de l'attaque de Dortmund, le Gabonais a déjà inscrit 9 buts cette saison. Autre rencontre ce mardi, Manchester City face au FC Barcelone.
Match en retard en Italie.
Naples est revenu à 3 points de la 2e place et de l'AS Rome en battant Sassuolo 2-0 grâce à son duo d'attaquants Zapata-Hamsik. C'était hier en match décalé de la 24e journée du championnat italien.
Mauvaise nouvelle pour Lassina Traoré.
L'attaquant ivoirien de Monaco, récent champion d'Afrique des Nations, doit être opéré cette semaine d'une fracture de fatigue du tibia droit et son absence est estimée entre 6 et 8 semaines, c'est ce qu'a annoncé le club. Lassina Traoré n'avait joué que quelques minutes en demi-finale de la CAN avec la sélection ivoirienne. Il était rentré blessé en principauté.
Retour à Conakry pour les joueurs de Oroya AC.
Le club guinéen s'était qualifié dimanche pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération après son match nul 3 partout face à l'équipe libérienne Fassal FC en match retour du tour préliminaire à Bamako. Oroya affrontera les Algériens Dassault Schleff au prochain tour et vous allez l'entendre, Antonio Soare a beaucoup d'ambition pour ses joueurs.
Nous sommes qualifiés, nous sommes ravis. Bon, le parcours continue. Notre objectif, c'est d'aller au bout. On jouait contre une équipe qu'on ne connaissait pas du tout. C'est la première fois. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais quand on a vu l'équipe sur le terrain, on a pu maîtriser les choses et nous continuons notre chemin.
La saison dernière, avec évidemment l'entraîneur Amara Traoré, Oroya FC devait passer un autre palier. Est-ce que cette saison, ce sera la bonne?
En tout cas, on a renforcé l'effectif. Nous avons un effectif très riche, tous les secteurs sont renforcés. Notre objectif, c'est d'aller au bout, c'est-à-dire c'est de jouer sur les 3 tableaux, championnat, Coupe nationale et Coupe de la CAF, pour aller au bout des 3. C'est notre objectif. Et nous avons mis les moyens pour ça et nous avons mis toutes les structures pour ça. Maintenant, le reste, c'est les techniciens qui vont gérer, mais ils ont tout pour arriver au bout.
Qu'est-ce que vous pensez de votre prochain adversaire, l'Assaut Schleff, les Algériens?
Oui, on a vu qu'ils ont joué contre les Sierra Leone. Bon, nous allons prendre tous les adversaires un à un. Nous ne sous-estimerons personne. Chaque match a ses réalités et chaque match a son contexte. Donc nous prendrons ça au sérieux et nous le jouerons à fond pour pouvoir passer le cap.
Antonio Soare, le président de l'Oroya Athletic Club. Enfin Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui Nicolas, 8 matchs étaient au programme cette nuit. Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont défait les Raptors de Toronto 100 à 97. Ailleurs dans la NBA, Philadelphie 108, Miami 119, Milwaukee 71, Chicago 87, Minnesota 102, Houston 113, Brooklyn 110, Denver 82, Boston 115, Phoenix 110, San Antonio 81, Utah 90. Et dans le dernier match qui a pris fin aux petites heures du matin, c'était entre Memphis et Los Angeles. Memphis 90, Los Angeles 87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro, Le Monde aujourd'hui continue et c'est l'heure de la partie magazine. D'emblée, cap sur la Côte d'Ivoire où l'ex-première dame du pays, Simone Gbagbo, a subi 9 heures d'audience à l'ouverture de son procès qui se déroule à la cour d'assises d'Abidjan. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État liée notamment aux troubles post-électoraux de 2010-2011. Elle a nié toutes les accusations portées contre elle et maintenu que son époux demeurait le vainqueur des présidentielles d'il y a 5 ans. Il s'agissait de sa première sortie après 4 années de silence à Abidjan. Le reportage de Germaine Dri.
Le passage à la barre de Mme Simone Eve Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien, a connu 2 blocages. Il s'agit d'abord de l'immunité parlementaire de l'accusé soulevée par la défense qui n'a pas été prise en compte par la cour, indiquant que cette protection a pris fait en 2005. Un rejet que le collectif des avocats de la défense trouve injuste. Maître Dagué Rodrigue.
Nous avons démontré par A plus B à la cour que le mandat de Mme Gbagbo n'était pas fini en 2005. Pour preuve, il y a des lois qui ont été votées jusqu'à 2010. Le nouveau gouvernement de M. Ouattara s'est adossé sur une loi votée en 2007 pour prendre le décret d'application du nouveau statut des diplomates. La cour, pour ne pas répondre à la question, a prétendu qu'elle était incompétente. Je ne partage pas ce point de vue, mais je respecte la décision de la cour. Le procès n'est pas encore fini, mais c'est une bonne appréciation.
Le deuxième blocage concerne la diffusion de cassettes vidéo d'un meeting organisé par l'ex-première dame à l'époque à l'audience. Pour ce dernier cas, la projection a été faite permettant à tous d'en avoir une idée du contenu. Durant cette comparution qui a duré plus de 8 heures d'horloge, l'accusée a rejeté en bloc les chefs d'accusation portés contre elle. Puis, elle persiste et signe que le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections de 2010. Au même moment, Issiaka Diaby, président des victimes de Côte d'Ivoire, qui a suivi ce procès avec plusieurs membres de son association, a affirmé que les victimes ont suffisamment de preuves contre Mme Simone Gbagbo.
Certains de nos membres reconnus viendront témoigner pour démontrer que Simone Gbagbo a bel et bien armé des jeunes dans des quartiers qui ont commis des crimes. Simone Gbagbo est à l'origine de certaines violences. Elle ne peut pas s'en sortir et elle doit répondre de ses actes.
L'audition des témoins a démarré cette nuit et se poursuivra des jours durant. Germaine Dri, Abidjan, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Gros coup de pouce financier pour l'armée malienne qui bénéficiera d'un investissement de plus de 1230 milliards de francs CFA pour la période 2015-2019, un montant fixé par la loi d'orientation et de programmation militaire adoptée à l'unanimité par le Parlement malien de Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
C'est la Commission Défense Nationale de la Sécurité et de la Protection Civile qui a été saisie au fond pour l'étude de ce projet de loi relatif à la loi d'orientation et de programmation militaire pour les années 2015-2019. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 28 janvier 2015. Général Mahamane Touré, chef d'état-major général de l'armée malienne.
Il me semble utile de rappeler la direction stratégique donnée par le chef suprême des armées visant à restructurer notre outil de défense en vue d'ériger des forces républicaines respectueuses de l'état de droit, dédiées à la sécurité et à la protection des citoyens maliens et de ses biens, constituant ainsi une valeur ajoutée certaine au processus démocratique.
Cela fait quelques années que les Maliens se plaignent de la performance de leur armée nationale. La crise au nord du Mali a été une occasion pour bon nombre de Maliens de savoir la grave crise que traversent les soldats maliens. Soumaïla Traoré, communiquant sur les sujets de l'armée.
La loi de programmation militaire vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, il est question de restructurer l'armée malienne pour faire face à la réalité du terrain. Cette armée a besoin d'être équipée pour faire face à ses missions régaliennes. Aujourd'hui, on sait que le Mali est confronté au djihadisme qui occupe le nord du pays. C'est une guerre asymétrique et notre armée doit être préparée pour ça. Nous devons former des unités d'élite, des brigades spécialisées à faire face au terrorisme.
La nouvelle loi prévoit plusieurs séries de formations, de recyclage, d'équipements, de construction et de reconstruction des infrastructures militaires, mais aussi le recrutement en masse des soldats pour tous les segments de l'armée malienne et les forces de sécurité. La double crise qu'a connue le Mali en 2012 a révélé au grand jour divers problèmes au sein de l'armée malienne. C'est pourquoi le président de la Commission nationale défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale veut qu'il y ait une gestion rigoureuse des fonds qui seront mobilisés. Honorable Karim Keïta.
Elle va doter l'armée en tout ce qui est équipement, personnel, fourniture, aussi les infrastructures. Elle va servir à rehausser tout cela en partant de l'existant, mais aussi en créant de nouvelles casernes, de nouveaux camps. Mais nous serons, nous, au niveau de la commission de défense, très regardants sur les dépenses.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'Afrique connectée, c'est le thème de Washington Forum. En quoi l'explosion des téléphones connectés à Internet a changé la vie des Africains? Les smartphones sont partout sur le continent, parlons-en. Laissez vos questions et commentaires sur notre page Facebook. Washington Forum, ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'absence d'une culture de l'épargne dans les milieux miniers dans l'est du pays inquiète, alors que les creuseurs artisanaux arrivent pourtant à se faire pas mal d'argent. Un sujet sur lequel se penchent les acteurs du domaine minier. Ils se sont réunis récemment à Goma, d'où nous retrouvons notre correspondant Primo Pascal Rodaïgua.
L'est de la RDC regorge de plusieurs carrés miniers dans lesquels on exploite du diamant, de l'or, de la cassitérite, de la tourmaline et plusieurs autres minéraux. Les creuseurs artisanaux gagnent en moyenne 10 dollars par jour, explique celui-ci rencontré dans le carré minier de Mangurejipa, dans le territoire de Lubero au Nord Kivu.
Même je peux gagner même 5 dollars, même 10 dollars, même 15 dollars.
Selon les recherches menées par Paul Institute, institut interculturel dans la région des Grands Lacs, les creuseurs artisanaux contribuent à l'enrichissement de beaucoup de gens, mais eux-mêmes demeurent pauvres et n'ont pas de l'avenir. Aloïse Teguera est directeur de la recherche à Paul Institute.
On a conduit des recherches approfondies en province orientale, au nord Kivu et au sud Kivu, pour essayer un peu de confirmer une idée que nous avons, comment aider les creuseurs artisanaux à bénéficier de leur travail comme il faut. Et quelque chose qui leur manquait, que nous avions décelé depuis un temps, c'était l'absence des possibilités d'épargne pour ces gens qui vivent le jour au jour.
Cette problématique était au centre d'une table de concertation minière organisée à Goma pour réfléchir sur les voies et moyens qui peuvent inciter les creuseurs à épargner. Les creuseurs artisanaux reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas la possibilité d'épargner par manque de succursales de microfinance dans les carrés miniers, explique ce négociant des minerais de Kalimbi au sud Kivu.
Il n'y a pas moyen d'épargner sans quelque part, sans un guichet, sans une place d'épargne comme IMF ou bien coopérative de microfinance. Ça n'existe pas chez nous, raison pour laquelle les exploitants n'épargnent jamais.
L'initiative des coopératives minières pourrait aider les creuseurs à se développer. Depuis Goma, Primo Pascal Rodaïgua pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Nouveau coup de projecteur ce matin sur Boko Haram, à l'heure où il est question de la mise en place d'une force régionale et au moment où les soldats nigérians semblent reprendre un peu de terrain au groupe islamiste, les djihadistes mènent des attaques sur plusieurs fronts à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria, ce qui pourrait s'apparenter à un changement de tactique alors que des élections sont prévues à la fin mars. Un survol de la situation avec Nicolas Pinou.
L'attaque de Boko Haram sur la ville de Gombe au début du mois en a surpris plus d'un. Les djihadistes sont entrés au cœur de la ville pour abattre des soldats et distribuer des tracts, avertissant ceux qui veulent participer au vote du 28 mars. C'était une première. Un habitant de la ville de Dadinkowa, qui avait subi une autre attaque, estime que l'incursion ne semblait pas être pour occuper un territoire, mais pour semer la peur. Je crois que leur objectif était de faire peur aux habitants de Gombe parce qu'ils sont allés dans le centre-ville et même autour de la caserne militaire. Ces dernières semaines, l'armée nigériane a repris son offensive et les troupes du Tchad, du Cameroun et du Niger voisin augmentent la pression sur les djihadistes. Les soldats nigérians assurent même avoir repris plusieurs localités, y compris Baga, sur les rives du lac Tchad, où les extrémistes avaient perpétré un massacre le mois dernier. Pour le journaliste Al-Qassim Abdul-Kadir, ces gains de l'armée nigériane forcent Boko Haram à changer de stratégie. Si l'offensive devient plus corsée, alors nous les verrons chercher de nouveaux fronts pour mener leur guerre. L'expert prévoit même une augmentation des attentats suicides à mesure que Boko Haram perdra du terrain dans ses fiefs dans l'extrême nord-est du pays. C'est à ce moment qu'ils vont activer les cellules dormantes pour frapper les villes, continuer la guerre, mais pas pour occuper des territoires, ni rester sur la défensive. Mais vous savez, ils vont entrer dans la clandestinité, mais en gardant quelques combattants armés dans certaines zones choisies. Mais je crois que les attaques vont se poursuivre avec plus d'attentats suicides, mais aussi des attaques sur les populations urbaines. Ces derniers jours, Boko Haram a attaqué une série de villages dans l'état d'Adamawa. Ils ont brièvement occupé la ville de Hong avant d'être repoussés par les militaires et les milices locales d'autodéfense. L'imam Daouda Bello est membre de l'initiative interconfessionnelle pour la paix dans l'état d'Adamawa. Ils essaient de traverser vers le Cameroun et ailleurs, mais maintenant le Cameroun les attaque aussi et ils ne peuvent pas aller au Niger ni au Tchad. Ils essaient donc de trouver un moyen de s'échapper. Alors ils peuvent atteindre de petits villages qu'ils vont raser et continuer. Et peut-être ils pourront pénétrer nuitamment dans une ville. Ainsi, ils ne seront pas détectés et certains d'entre eux pourront s'échapper et se fondre comme des citoyens ordinaires. Maintenant, la peur des infiltrés commence à envahir les camps de déplacés internes et la suspicion se répand sur des allégations de gens qui viennent prendre refuge dans les camps alors qu'ils sont membres du groupe djihadiste.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Au Togo, le mois de mars sera le mois de la femme, organisé par la compagnie Vague Togo, qui couronne chaque année une personnalité féminine. La lauréate est dénommée ambassadrice Vlisco. En 2014, c'est Aimé Abra Tenou, présidente de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait décroché le titre. Son bilan avec notre correspondante à Lomé, Kayle Orson.
Trois domaines principaux ont été choisis par l'ambassadrice Vlisco 2014 pour contribuer au développement du Togo. Il s'agit de l'éducation, de la promotion des droits de la femme et de la protection de l'environnement. Pour appuyer le volet environnemental, l'unité de production des sacs et accessoires à partir des sachets plastiques recyclés a reçu une machine à coudre de maroquinerie. Aimé Abra Tenou, présidente de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et ambassadrice Vlisco 2014.
Dans le domaine de la protection de l'environnement, ça fait 4 ans que nous recyclons des sachets plastiques de type Piowata et nous recyclons maintenant jusqu'à 150 000 sachets Piowata par jour. Ça représente peut-être pas beaucoup, parce qu'il y a plus de 2 millions de sachets qui sont déversés tous les jours à Lomé. Nous venons de monter un second atelier à Palimé où nous recyclons également environ 50 000 sachets là-bas. Il y a le volet environnement, mais il y a aussi l'accompagnement financier des femmes qui collectent ces sachets dans les rues. Ils sont rémunérés à hauteur de 4 francs le sachet plastique.
Sur le plan éducatif, 400 kits scolaires ont été remis aux enfants démunis des milieux ruraux et 4 bourses d'études d'une valeur de 500 000 francs CFA chacune pour des étudiantes des universités publiques du Togo. Le programme de bourse est assuré par le réseau NAASI. Luc Agbetoro, secrétaire général de ce réseau.
Notre programme vise à sortir l'étudiant togolais de ses difficultés quotidiennes en lui octroyant une opportunité de poursuivre ses études à partir des financeurs que nous cherchons au Togo et dans la diaspora. Si nous associons 10 personnes qui financent une bourse de 10 000 francs, nous avons une bourse globale de 100 000 francs qui peut servir à un étudiant qui est dans le besoin mais qui est aussi excellent.
La bourse Mois de la Femme se repose sur 3 critères fondamentaux. Être une jeune fille dans une université publique, avoir au moins 12 de moyenne et une situation sociale délicate. L'une des bénéficiaires de cette bourse est Ayawa Amedeovo. Elle est étudiante en deuxième année gestion, option comptabilité contrôle audit à l'université de Lomé.
Cette bourse va m'apporter beaucoup, surtout en matière financière pour l'achat des matériels didactiques. La distance de ma maison jusqu'à l'université de Lomé, c'est un peu grand, donc j'ai besoin des moyens financiers. Donc, mon projet d'avenir, c'est d'être expert comptable. Donc, je vais promouvoir la transparence dans la gestion, devenir aussi une leader, une modèle pour la jeune fille togolaise.
La dernière action sociale de l'ambassadrice Aimé Abra Tenou est l'établissement de 100 cartes d'identité nationale pour des femmes du centre d'alphabétisation de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Kayle Orson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. John Ellison était responsable de la partie technique. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. De Washington, je vous souhaite une très bonne journée de mardi sur la VOA. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.